Bienvenue dans l'émission Amphi 23, consacrée aujourd'hui aux origines historiques de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, dont on fête cette année le centenaire. Des émissions précédentes ont abordé ses origines sous la monarchie et pendant la période révolutionnaire. Cette fois, Amphi 23 propose un panorama du 19e siècle, notamment de la Restauration à Jules Ferry, pour comprendre les étapes préalables qui conduisent en France à une séparation des Églises et de l'État en 1905. Tout au long du 19e siècle, les penseurs s'interrogent sur l'interprétation de la Révolution, sur le rôle de la religion dans les déchirures qu'elle a provoquées, et en fait comment concilier les opinions religieuses et les libertés modernes. Aujourd'hui, pour répondre à la question centrale des relations entre l'État et les Églises en France au XIXe siècle, qui a connu une succession de régimes avant que ne s'instaure durablement la République à partir des années 1870, j'accueille Yves Brûlé, chargé de mission à l'Académie des sciences morales et politiques pour la commémoration du centenaire de la loi de 1905. Yves Brûlé, bonjour et bonjour. Bienvenue. Alors, nous avons vu dans les émissions précédentes que Napoléon avait établi le régime du concordat avec l'Église catholique et avait organisé les autres cultes, protestantisme et judaïsme. À la chute de l'Empire en 1814, les Bourbons reviennent en France, la monarchie est restaurée. On renoue avec la chaîne du temps, la chaîne des siècles. Le roi va-t-il conserver le concordat signé par son adversaire d'hier, Napoléon ?
Effectivement, c'est la question qui se pose, puisque les royalistes, à l'époque de Napoléon, étaient très, très hostiles au concordat. Alors, les voilà au pouvoir, que vont-ils faire ? Est-ce qu'ils vont garder ce concordat qui leur paraît une horreur, puisque c'est Bonaparte lui-même qui l'a fait, même avec le pape ? Ou bien est-ce qu'ils vont revenir à l'ancien régime ? En fait, la restauration n'est qu'une restauration du roi, mais les institutions napoléoniennes, l'essentiel des institutions napoléoniennes, sont conservées, et parmi ces institutions, il y a le concordat, le régime des cultes qui reste le même, non seulement sous la Restauration, mais comme on va le voir, sous l'ensemble des régimes qui vont se succéder au XIXe siècle. Donc on garde un régime selon lequel l'État finance, rémunère et soutient quatre religions, catholicisme, protestantisme calviniste, protestantisme luthérien et judaïsme.
Sous les régimes qui se succèdent après la Restauration, monarchie de Juillet, en 1830, Deuxième République en 1848, Second Empire, les relations entre l'État et les Églises restent-elles les mêmes ?
Alors, il y a des moments, c'est-à-dire que les structures restent les mêmes, on reste dans un régime concordataire, donc les évêques sont toujours nommés par le chef de l'État, qu'il soit roi, empereur, président de la République, et confirmé par le pape. Alors, il y a quelquefois des conflits, mais globalement, les choses se passent à peu près bien. Alors, évidemment, il y a des moments plus ou moins de tension ou d'accord entre les régimes, les gouvernements et l'Église. Sous la Restauration, il y a plutôt ce qu'on a appelé une alliance du trône et de l'autel, c'est-à-dire une entente profonde entre l'Église et le pouvoir royal. En revanche, sous Louis-Philippe, donc entre 1830 et 1848, il y a beaucoup plus de tensions anticléricales. Et de nouveau, sous le Second Empire, sous Napoléon III, il y a de nouveau une entente très forte entre l'Église et l'État, parce que l'État, par exemple, un exemple parmi d'autres, l'État compte sur l'Église pour contenir les mouvements révolutionnaires. Je m'explique. Il y a de plus en plus d'industries en France, de plus en plus d'ouvriers, et on s'aperçoit que les ouvriers sont révolutionnaires. Et donc, l'empereur finance les constructions d'églises, par exemple, finance la formation des prêtres, parce qu'il pense que s'ils sont bons chrétiens, les ouvriers ne seront beaucoup moins révolutionnaires.
Mais déjà, les catholiques libéraux avaient déjà appelé à l'abolition du concordat.
Alors, c'est l'un des intérêts du XIXe siècle, c'est qu'il y a beaucoup de nuances. Parmi les catholiques eux-mêmes, il n'y a pas que des partisans du régime du concordat. Il y a certains catholiques qui critiquent ce régime parce qu'ils pensent que, justement, ce régime du concordat met l'Église sous la tutelle de l'État. Ils ne trouvent pas normal qu'un gouvernement dans lequel, finalement, les catholiques sont minoritaires, par exemple sous Louis-Philippe, puisse nommer les évêques. Ça leur paraît absurde. Et donc, ils disent, il faut passer à autre chose. Et curieusement, ce sont au XIXe siècle des catholiques qui vont les premiers parler de séparation de l'Église et de l'État, mais pas du tout dans la perspective qui sera celle de 1905.
D'accord. L'idée d'une séparation, toutefois, commence à faire son chemin. Et quels en sont les premiers partisans et pourquoi ?
Alors, après donc les catholiques libéraux que l'on vient d'évoquer, c'est sous le Second Empire que de nouveau l'idée revient qu'il faut séparer l'Église de l'État chez les républicains. Alors, les républicains sont dans une opposition, bien sûr, contre Napoléon III. Ils sont même persécutés, quelquefois emprisonnés. Mais donc l'idée revient en disant qu'au fond, cette alliance du pouvoir politique et de l'Église est néfaste, elle est contraire aux libertés. Et ils disent, quand nous serons au pouvoir, nous arriverons et nous dirons, maintenant, le concordat, c'est fini. L'Église de son côté et l'État de l'autre. En fait, ce n'est pas exactement la politique qu'ils mèneront lorsqu'ils seront au pouvoir. En tout cas, pas tout de suite, puisque la Troisième République arrive 1870, il faudra attendre encore.
Ce n'est pas non plus la même génération politique, tout à fait.
Pas tout à fait, mais encore 35 ans avant que la séparation ne soit votée.
Après le Second Empire, les républicains vont arriver au pouvoir et c'est le début d'un long conflit avec l'Église catholique. Quel est l'enjeu de cette lutte et est-elle un danger pour la République ?
Alors effectivement, c'est l'idée que l'Église est un danger pour la République qui est une idée très, très forte et qui dure pour l'essentiel sous la Troisième République. Pourquoi ? Eh bien parce que pour la plupart, les catholiques, après 1870, sont des royalistes. Donc ils sont hostiles au régime républicain. Et les républicains disent, eh bien, il faut combattre l'Église parce que c'est elle qui soutient les prétendants royalistes pour renverser la République. Donc, vous voyez bien, on voit bien que la question du régime est très liée à la question religieuse. Et cela est accentué par le fait que les républicains eux-mêmes étant anticléricaux, surtout pour ceux qui gouvernent à partir de 1879, ils mènent une politique, on va voir tout de suite, qui est très hostile à l'Église. Et cela conforte en quelque sorte l'argument des catholiques en disant, vous voyez, quand on a une République, on a un État persécuteur. Et donc, l'un nourrit l'autre et c'est le cercle vicieux.
L'avènement de la Troisième République correspond aussi à de nouvelles idées politiques. Les hommes qui arrivent au pouvoir n'ont pas les mêmes conceptions de la religion que leurs prédécesseurs. Que pouvez-vous nous dire ?
Oui, alors effectivement, le régime du Concordat fondé en 1801, il était fondé sur une idée, c'est que les religions sont utiles. L'État doit les soutenir, doit les organiser, doit les rémunérer parce qu'elles sont utiles pour encadrer la société. À la fin du 19e siècle, les hommes au pouvoir n'ont plus du tout la même vision de la religion. Pour eux, on peut croire en Dieu, la plupart ne sont pas athées d'ailleurs, ils croient en Dieu, mais ils ne veulent pas de prêtres, en gros. Ils sont hostiles à l'institution religieuse et ils veulent surtout que les citoyens se libèrent au fond de ce qu'ils considèrent comme une contrainte. Religion devient contrainte et non pas une utilité à la société.
Alors avec Jules Ferry, la laïcité fait un grand pas en avant. Peut-on parler là d'une séparation de l'Église et de l'école qui aurait en fait précédé la séparation de l'Église et de l'État ?
Oui, je crois qu'effectivement on peut dire que les hommes de la Troisième République autour de Jules Ferry ont voulu séparer l'école publique de l'Église 25 ans avant de séparer l'État de l'Église avec la loi de 1905.
Donc, l'enjeu était de former des citoyens.
Tout à fait. Et donc,
Républicains.
Et des républicains. Et des hommes libres, selon la conception qu'on pouvait en avoir à cette époque-là. Donc, Jules Ferry lui-même donc, est au pouvoir au début des années 1880. Et il fait prendre une série de lois qui sont connues sur la gratuité, la laïcité et l'obligation de l'école. Mais il faut bien voir que donc il s'agit de développer des écoles publiques partout en France, de rendre obligatoire la fréquentation de ces écoles. Mais ça ne veut pas dire qu'on supprime la liberté d'enseignement, qu'on va obliger tout de suite les écoles privées à fermer. Pas du tout. Ferry est d'abord un libéral, il est pour la liberté de l'enseignement, mais il faut qu'il y ait une école publique partout. Et deuxième point, il faut bien comprendre que même dans les écoles publiques au 19e siècle, on était obligé de recruter des prêtres ou des religieuses pour enseigner parce qu'on n'avait pas assez d'enseignants laïcs. Donc petit à petit, on écarte les religieux et les religieuses des écoles publiques.
Et en 1886, on aura la loi sur la laïcisation du personnel enseignant.
C'est cela, voilà, c'est la loi qui, en fait, oblige à embaucher des laïcs et non pas des religieux dans les écoles publiques, non pas seulement dans les écoles privées.
Alors finalement, à la fin du 19e siècle, peut-on être à la fois bon catholique et bon républicain ? Y a-t-il une France ou deux France opposées ?
Alors effectivement, c'est la question qui se pose aux contemporains. Les catholiques français peuvent voter aussi pour des candidats républicains, malgré la politique anticatholique de la République. Tout cela est extrêmement imbriqué.
Depuis 1890, le cardinal Lavigerie avait appelé les catholiques au ralliement à la République.
Et tout à fait. Et donc, le pape lui-même, le cardinal Lavigerie, à la demande du pape, en fait, en 1890, appelle à ce qu'on a appelé le ralliement, c'est-à-dire la République existe, et bien les catholiques doivent l'accepter et surtout exister en tant que citoyens actifs, non pas s'opposer complètement au régime, mais s'intégrer dans le régime et peut-être, au bout du compte, essayer de re-christianiser de l'intérieur. C'est l'arrière-pensée du pape, de re-christianiser de l'intérieur, la République, en étant actif dans ce régime, au lieu de chercher à soutenir des prétendants royalistes qui eux-mêmes ne s'entendaient pas entre eux.
Donc on oublie le conflit, on fait le pas du compromis.
Alors on n'oublie pas complètement le conflit, parce que le ralliement n'a pas très bien marché. Il y a simplement une période d'apaisement dans les années 1890. Donc si vous voulez, il y a une grande période de crise dans les années 1880 avec toutes les lois de laïcisation de la République, et puis ensuite une période d'apaisement.
Sur le divorce, qui est rétabli, qui a été supprimé de 1814 jusque dans les années 1880.
Tout à fait, cela fait partie donc des mesures de laïcisation, de retour sur ces lois dites cléricales. Et donc il y a une période d'apaisement politique entre l'État et l'Église dans les années 1890, on parle même d'un esprit nouveau,
oui.
Mais tout cela va s'échouer contre l'affaire Dreyfus, et là on entre dans une autre phase.
Yves Brulé, merci, nous avons vu que la Troisième République laïcise la France. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Histoire de la laïcité à la française », publié en avril 2005 par l'Académie des sciences morales et politiques. Merci.